Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'une rencontre dessinée avec Nine Anticot, qui est le premier auteur féminin, la première dessinatrice, la première auteure de bande dessinée fille à participer à ces rencontres. Nine Anticot, j'aimerais d'abord avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la rencontre dessinée, qu'on fasse un peu mieux connaissance avec vous. Et d'abord parler de votre approche du dessin, puisqu'en fait vous êtes venue à la bande dessinée d'abord par la pratique du dessin et d'un dessin assez particulier qui est le dessin sur le vif.
Oui, je dessinais depuis que j'étais petite, mais c'est devenu prégnant dans ma vie, plutôt en même temps que j'ai découvert la musique. En fait, je suis allée à des concerts et j'ai commencé à croquer ce qui se passait sur scène. Et aussi, ça correspondait à une période où j'habitais avec des amis de mon âge et j'aimais bien figer des scènes de filles pour la plupart du temps, ou des scènes de vie, et extraire une phrase d'une situation. Et donc voilà, je dessinais que sur carnet et n'importe où, n'importe quand, devant tout le monde. Voilà.
Donc le dessin, pour vous, est lié à l'observation, bien sûr, et à la mémoire. C'est une manière de fixer des choses.
Ouais, sauf que maintenant, c'est vraiment plus lié à la mémoire, dans le sens où je dessine plus du tout. C'est un peu un regret, et à la fois, c'est une évolution, j'imagine aussi, mais je dessine plus du tout...
D'après nature
D'après nature, à une terrasse ou quoi que ce soit. Je fais plus ça, je dessine de manière assez studieuse, chez moi ou en atelier, et je pense que j'avais aussi beaucoup besoin du regard des gens qui me confortaient en me disant « Ah, c'est vachement bien ce que tu fais », etc. Et que c'était aussi effectivement ces scènes de vie qui me plaisaient, et maintenant c'est plus la narration qui m'intéresse, et du coup ça demande de s'étaler comme ça, et puis j'ai plus envie d'avoir... j'ai plus... ni tant besoin du regard d'autrui. Et voilà.
Et alors le dessin, c'était un... puisque je faisais remarquer que vous étiez la première femme à participer à ces rencontres, mais est-ce que cette pratique du dessin avait un lien avec la notion de journal, la notion qui est une notion plus féminine peut-être que masculine, même s'il y a des garçons aussi qui tiennent un journal, qui fixent des choses aussi par écrit et par dessin, ou pas du tout?
Je ne sais pas du tout si c'est lié à ma féminité. Le fait que je dessinais des choses qui m'étaient personnelles, alors comme je suis une fille, par conséquence, c'est mon point de vue sur la chose. Après, j'ose espérer qu'à tout moment de ce que j'ai fait et de ce que je ferai, je ne touche pas que les filles.
Non, c'est pas ce que je disais. C'est,
ouais.
C'est plus le
dans le dans la presse. Oui, ouais. C'est comme un journal. Oui. J'ai parlé d'abord de ce qui m'entourait et de ce qui se passait dans ma vie. Oui, on peut rapprocher ça de l'écriture d'un journal intime, en quelque sorte.
Et vous n'êtes pas vraiment au départ dans votre enfance, adolescence, vous lisez des classiques de la bande dessinée, mais vous n'êtes pas une lectrice assidue de bande dessinée au départ. C'est le choc vient en fait. À la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, avec la découverte d'auteurs...
Oui, vers la vingtaine, pour la première fois. Parce que j'ai toujours beaucoup lu, mais la littérature, avec un grand L.
Qui, par exemple, en littérature, c'est intéressant, peut-être
Plein de choses.
Vous êtes une lectrice, quoi, en tout cas.
Oui. Mais après, il y a plein de romans que j'ai adorés. Ça va de Zola à John Fante à... Saline Dior, en passant par plein de trucs, enfin, mais vraiment, c'est assez varié. Mais par contre, la bande dessinée, mes parents n'en lisaient pas énormément. Si mon père avait Charlie Hebdo et tout ça, mais moi, je trouvais ça très vulgaire à l'époque. Enfin, je comprenais pas. Je trouvais ça un peu sale quand j'étais petite. Et enfin, bref, j'ai pas du tout baigné dans une ambiance bande dessinée. Et c'est en découvrant la boutique Super Héros que j'ai vu des couvertures d'abord de livres qui m'ont attirée. Et en l'occurrence, c'était celle de livres de Cornelius que je trouvais. Moi, j'y connaissais rien et je savais pas qu'on pouvait faire de la bande dessinée autrement qu'en cartonné, gronné, etc. Alors, et du coup, j'ai acheté.
Le nom de Cornelius est important parce qu'en fait, c'est pas très connu. Moi, je vous ai connu d'abord en tant que collaboratrice des éditions Cornelius. Vous avez travaillé il y a pas si longtemps que ça, vous y étiez encore.
Jusqu'en septembre 2007.
Et alors, ça vous a nourri aussi, j'imagine, d'une culture, puisque Jean-Louis Gotel, éditeur de Cornelius, n'a d'ailleurs pas qu'une culture que liée à ce qu'il publie.
Ouais,
il a une
culture
beaucoup plus ouverte. Ça a été une espèce de, comment dire, d'accès à la bande dessinée accélérée.
Ouais, je pense complètement. Moi, j'y suis rentrée par hasard parce que je cherchais un travail à mi-temps qui me permettrait de dessiner à côté et tout en.
Ce que vous ne disiez pas, hein, parce que moi, on n'a jamais parlé de
votre travail personnel. Non, mais c'était un peu le terme du contrat avec Jean-Louis, c'était que c'était
ok,
tu dessines, mais c'est à côté, parce qu'effectivement, il ne fallait pas mélanger ça, parce que s'il n'avait pas aimé ce que je faisais, ou même d'ailleurs au début, je pense qu'il n'aimait pas, parce que j'ai. Bref, je lui ai montré toutes les choses que je faisais à l'époque. Bref,
il
fallait pas mélanger
radical,
tout ça. Comment ?
Il est assez radical comme garçon, donc vous l'auriez su s'il avait.
Oui, ouais, voilà. Et donc après, travailler avec quelqu'un dont on sait qu'il aime pas votre travail personnel, c'est pas forcément évident. Donc c'était quelque chose qui était de côté. Et puis j'étais face à tellement d'auteurs géniaux que je me voyais mal me ramener en disant voilà, moi, ce que je fais à côté de Charles Burns, Daniel Clowes, Blutch. Et effectivement, ça a été ma découverte d'un panorama de la bande dessinée, comme Cornelius est très proche, et géographiquement, et par les liens du sang de l'association des requins-marteaux, etc. J'ai découvert toute cette culture-là, qui me correspondait pas mal. Et donc voilà, j'y ai travaillé pendant 4 ans en défendant les auteurs. Et à côté, quand je rentrais chez moi, je dessinais pour moi.
Est-ce que ça a un lien pour vous aussi avec la culture rock, avec une certaine culture rock, en tout cas pas rock au sens rockabilly, mais rock contemporain ?
Oui, mais j'ai rien contre le rockabilly.
Non,
mais, oui, enfin, en tous les cas, c'est vrai qu'il y a énormément d'auteurs de bandes dessinées qui sont moi pour ceux que je connais. C'est pas du tout un milieu où les gens ont des œillères. C'est-à-dire que les gens qui sont intéressés par la bande dessinée, en général, ils s'intéressent aussi énormément au cinéma, à la musique, à la littérature. Enfin, c'est pas à sens unique, la bande dessinée, comme il y a plein de médiums parallèles qui nourrissent ça. Donc le rock. Je ne sais pas si spécifiquement le rock, moi oui, après la musique certainement.
Alors le premier livre qui est, enfin la première bande dessinée, pardon, pas le premier livre forcément, mais la première bande dessinée que vous avez publiée, c'est Le Goût du Paradis, qui est paru l'année dernière, qui a été sélectionné en janvier dernier à Angoulême, qui faisait partie donc de la sélection officielle, où vous racontez. Vous êtes dans une veine autobiographique, je crois, ou auto-fictionnelle.
À 99%, oui.
Presque. Vous racontez donc votre adolescence à Aubervilliers. On va parler surtout du projet sur lequel vous travaillez aujourd'hui, mais juste pour donner envie peut-être aux personnes qui sont là de découvrir ce livre, s'il est encore disponible. Je crois qu'il est épuisé.
Il est épuisé.
On peut l'emprunter à la BPI, j'imagine.
Oui, et il sera réimprimé normalement cette année.
D'accord.
Entre mes livres.
Chez Ego Comics ?
Non, pas sûr.
D'accord.
C'est encore à définir, mais c'est pas, a priori pas chez Ego Comics. Et en fait, oui, c'était mon premier livre. Et je ne pouvais pas faire. Déjà, quand j'ai commencé à dessiner, j'ai dessiné des scènes de dimanche en famille, comme ça, sur mon carnet, tel que je le faisais de scènes sur le vif. Sauf que là, je me suis mise à dessiner. Un souvenir de dimanche.
Donc, commencer une séquence peut-être ou pas,
oui,
pas vraiment.
Ça se rapprochait plus de l'illustration que de la bande dessinée. C'était pas découpé ni rien, mais c'était donc des scènes avec une phrase extraite. Et puis j'en ai fait plus qu'une. Et ensuite j'ai commencé à sentir que j'avais envie de raconter une scène, puis après une scène une autre. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais plein de choses que j'avais envie de raconter sur mon adolescence, qui est, comme toutes les adolescences, j'imagine, marquée par les complexes de cette époque-là. Et moi, ce que j'avais vraiment envie de raconter, parce que je ne l'ai pas souvent lu ou vu, à part. Je l'ai très rarement vu, alors que je sais que c'est quand même un sentiment. qui a été partagée pour des gens qui ont vécu dans des milieux très mélangés, c'est que moi, j'étais, je me sentais, j'étais complexée du milieu, j'étais complexée d'être blanche et de ce que ça représentait, je ressentais, j'étais très critique par rapport à ma vision de la famille et du côté que je voyais beauf, moi, et ça c'était...
Français au sens...
Oui, franco-français, tout ce qui va avec ça, ça me dégoûtait.
C'est un sujet qui n'a pas souvent été traité, effectivement, en fiction.
Non, or je pense que je ne suis pas du tout la seule à avoir ressenti ça, parce que j'avais des amis qui étaient comme moi... Enfin, moi, après, je suis fille. Enfin, mon père est italien. Enfin, je suis pas franco-française, etc. Mais j'ai toute l'apparence d'une bonne petite fille blanche. Et j'avais un bandana, les cheveux longs, un grand front. J'étais sérieuse. J'avais des bonnes notes. J'avais pas de signe extérieur d'exotisme, quel qu'il soit. J'avais pas de religion. Et il me semblait que tout le monde était beaucoup plus... je sais pas, dégagé, cool. Beaucoup plus que...
Le goût du paradis, ça vient d'où ?
Ça vient pas de moi, en fait. Enfin, si, c'est le raccourci d'une phrase dans le livre, mais c'est l'éditeur qui a trouvé ce titre-là, parce que moi, j'en avais un à la base qui était « On a passé l'âge » et qui ne voulait pas prendre, et j'ai pas résisté autant que peut-être que j'aurais dû. Parce que, bref, donc ça leur convenait pas, parce qu'il semblait que ça retransmettait pas assez, c'était trop évasif. Alors que le goût du paradis, je pense que c'est encore plus évasif, mais parce que c'est une phrase où je dis le paradis n'a plus le même goût, et donc ça faisait un peu Claude Sauté. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas. On va s'arrêter là.
Alors on va parler du projet. Alors peut-être s'il y a des questions sur ce livre, n'hésitez pas. C'est peut-être le moment plus de les poser que par la suite. Je sais. Il y a un micro qui, dès que vous voulez poser une question, il y a un micro qui est là et n'hésitez pas à vous en emparer. Non ? D'accord. Le projet sur lequel vous travaillez actuellement est assez audacieux, puisque c'est un sujet double, enfin triple, ou je ne sais pas, enfin, en tout cas qui a plein d'implications. Il faut peut-être présenter les différents personnages, parce que les noms n'évoquent pas forcément grand-chose à tout le monde. Vous avez choisi de raconter la vie croisée de deux femmes au destin parallèle et qui ont des points communs, mais qui ont des approches très différentes de leur métier. On en parlait juste avant. C'est Betty Page qui est connue surtout pour une imagerie plutôt années 50, un peu bondage, enfin... Mais soft, c'est-à-dire effectivement souvent aller.
Oui, pour l'époque, c'était très audacieux et avant-gardiste et mal vu. Enfin, les photos bondage, parce qu'elle était aussi connue. C'était une icône populaire aussi pour des photos très gentilles. Le SM, enfin le bondage, c'était déjà un autre biais plus comme les Tijuana Bibles. Enfin, c'était des trucs qui circulaient plus sous le manteau, mais de tout un chacun, elle était connue pour. Pour être une mignonne petite fille, femme qui posait dans les magazines.
Elle a des poses très sexy et toujours un visage très ingénu, malicieux. Oui, voilà. Ingénu ou malicieux, ou les deux d'ailleurs.
Mais ce qui plaisait vraiment beaucoup aux hommes, et comme Linda Lovelace, ça c'est un angle qui m'a fait marrer et que je voulais aborder, c'est qu'ils adoraient le fait qu'elle soit très. Que sous des airs innocents et jamais, jamais trop sales, elle fasse les pires trucs. Ça plaisait vraiment beaucoup. Quoi.
Alors, par rapport à l'histoire de la bande dessinée, elle a inspiré aussi le personnage elle a inspiré plusieurs personnages, mais surtout Poison Ivy dans Batman. Poison Ivy, pardon.
Alors, ça, par contre, c'est des références que j'ai.
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, mais c'est bien. je crois qu'elle est aussi. Elle apparaît dans Rocketeer, je crois. Ouais, et dans une bande dessinée d'Yann et Berthet aussi. Bon. Mais c'est pas ça qui vous intéressait, c'était plutôt, j'imagine. Bon, on va parler de l'autre personnage, comme ça on va mieux comprendre, qui est Linda Lovelace, dont le nom est moins connu, mais on connaît au moins le film pour le titre, si on l'a pas forcément vu. C'est pas du tout faux cul de ma part. Moi, j'ai pas vu, par exemple, Gorge Profonde, donc j'ai pas vu ce film. Je sais que ça existe, mais c'est un titre qui est resté, notamment à cause de l'affaire la fameuse affaire du Watergate, avec, parce que je crois que le, ouais. l'informateur était surnommé comme ça. Mais ça n'a rien à voir. Donc Linda Lovelace était une, au départ une jeune fille un peu perdue, prostituée, qui est devenue actrice porno, en fait.
Oui, en fait, elle n'était pas... non, elle est sortie, avec, sortie puis elle s'est mariée avec Chuck Trenor. Et lui... Enfin, ça, c'est dans ses dires, parce qu'elle a fait moult biographies, autobiographies, où elle n'a pas arrêté de se contredire. Ses premières, c'est « oui, j'adore le sexe, le sperme, c'est mon goût préféré », etc. Ensuite, elle a dit « non, quand, en fait, quand j'ai fait tout ça, j'étais forcée par mon mari qui me battait et qui me collait un flingue contre la tempe, etc. » Donc, elle, elle n'a pas arrêté de se contredire. Donc, c'est difficile de savoir réellement ce qui s'est passé. Certes, je pense qu'elle a eu une relation très... elle a été manipulée par son mari, mais comme elle a été manipulée dans sa vie en général, c'est une femme de beaucoup moins fort caractère que Betty Page, et donc elle est soi-disant, il l'aurait prostituée pendant cette époque où elle tournait en même temps des loops, enfin des films pornographiques avant de tourner Gorge Profonde et etc. Mais donc ouais, c'est l'icône de ce film qui a marqué. Enfin, qui a créé la polémique à l'époque.
Alors, c'est donc le portrait croisé de deux, on pourrait dire, deux femmes objets, même si c'est plus compliqué que ça, mais quand même deux femmes, en tout cas, qui ont choisi d'utiliser leur corps pour en faire une profession.
Oui.
Et d'une manière un peu plus soft, quand même, pour Betty Page, et plus hard pour...
Ce qui m'intéressait, moi, c'est le fait qu'elle... en fait, je ne sais plus dans quel ordre, si je me suis d'abord... en fait, je suis tombée sur un papier qui résumait un peu la vie de Betty Page, qui était complètement de haut, de bas, assez rocambolesque. Et après, je ne sais plus si j'ai lu un article, mais j'ai vu le film Inside Deep Throat, qui est un documentaire sur le film et sur le côté historique, sociopolitique, la mafia et tout ça. Enfin, bon, bref, ça traite de plein de choses et de Linda Lovelace. Et ça s'est fait de manière assez rapprochée. Et en ça, la vie, ça, c'est les hasards de la vie. J'aurais pu croiser d'autres destins de femmes. Mais c'est vrai que celle-là, ça m'a semblé assez intéressant de faire ce parallèle parce qu'elles avaient des tempéraments très différents, en plus d'avoir abordé de manière différente aussi le sexe et tout ça. En fait, ils pouvaient se créer une résonance en mettant en parallèle leur vie. Et des fois, ce qui est bien, c'est les hasards aussi, quand on écrit de une scène et une autre, c'est quelque chose. Et quand on les met à côté, il y a un truc qu'on n'avait même pas soupçonné qui se dégage de ça. Mmh. Et ça, c'est intéressant.
Et qu'est-ce qui, dans ces deux destins, vous interpelle d'abord ? Enfin, ça, c'est l'image de la femme qui est uniquement sexualisée, ou d'ailleurs, en fait, elles sont presque... Oui. On leur prête plus du tout de pensée, etc. Enfin, elles deviennent... Quand je disais objets, c'est vraiment ça, quand même. Elles sont des objets fantasmatiques, en tout
oui.
cas.
Mais moi, il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai voulu... j'ai pas voulu dire une chose en faisant ce livre. Il y a déjà rien que de parler... enfin, de dessiner les années 50 et 70 aux États-Unis. Ça, c'est un plaisir... C'est comme un fantasme que je réalise dans l'impression de faire mon petit film à moi. Donc ça, déjà, rien que pour ça, je suis contente de travailler là-dessus. Linda Lovelace, moi, une question que je me pose comme n'importe quelle fille et personne, c'est son destin est intéressant parce que, comme j'ai dit, elle n'a pas arrêté de revenir sur ses positions féministes, anti-pornographie. Ensuite, elle a reposé pour des magazines de charme. Enfin, bref, ça a été des perpétuelles contradictions. Mais est-ce qu'on peut être actrice porno et vraiment être épanouie? Enfin, c'est forcément des questions qu'on se pose, parce que oui, je pense qu'il y a des femmes qui considèrent la sexualité de manière complètement libérée et qui peuvent jusqu'à en faire un métier, etc. Mais est-ce qu'on peut, à tous les âges de sa vie, se confronter à sa carrière dans le porno et dire oui, j'assume complètement, je l'ai fait pour telle raison, etc. Ça m'intéressait de cet aspect-là. Et Betty Page, c'est un peu les ratés de sa carrière, parce que même si c'est devenu quelqu'un de culte, En fait, c'était malgré elle, parce que sa carrière a duré très peu de temps. Et c'était au début des années 50. Elle s'est retirée dans, en 56-57. Et ensuite, elle a eu toute une autre vie qui, elle, pour, qu'elle, elle a considéré que sa vie commençait quand elle s'est tournée vers la religion. Et absolument pas ces cinq années, enfin, ces cinq, six années de photos.
Il y a plein de légendes sur... sur elle, on a dit qu'elle s'était retirée dans un couvent, ce qui était faux, en fait.
En fait, elle s'est vraiment... enfin, c'est vraiment... Alors, après, moi, je ne suis pas du tout chercheuse au CNRS. J'ai contacté personne à
la
juillet.
Elle est morte l'année dernière.
L'année dernière, en décembre. Et j'ai une biographie autorisée et une non autorisée. Et j'ai essayé de faire... Mon mix à moi, et sachant que j'affirme rien au tampon en disant voilà ce qui s'est passé dans sa vie. J'essaye, seulement, même la biographie non autorisée qui raconte ses démêlés psychiatriques, ses tentatives d'homicide, etc. Enfin, ça allait très loin. Elle est vraiment, elle est vraiment devenue folle et elle s'est fait soigner. Et elle est sortie dans les années 90 d'internement et elle a vécu de manière très retirée dans une résidence où il y avait quelques rares fans comme Dave Stevens, le créateur de Rocketeer, qui l'a abordé parce que lui, il avait engrangé aussi pas mal d'argent grâce à ses créations, Betty Page, etc. Or, elle, elle n'a pas du tout participé. Elle est sortie d'internement et s'est rendue compte qu'elle était, qu'elle était devenue une espèce d'icône internationale, sauf qu'elle ne touchait rien du tout. Elle est pleine de contradictions, cette femme, parce qu'à la fois... Elle est devenue très, très pieuse et elle voulait être missionnaire. Ça lui a pas été accordé. C'est une des raisons pour lesquelles elle a pété les plombs, si je peux me permettre. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, elle est pleine de contradictions. Donc, elle était très pieuse. Et à la fois, les passages que j'ai, moi, dans le livre, la biographie non autorisée, de gens qui ont discuté avec elle en la confrontant aux photos, elle voit pas ça, du tout le mal, enfin le côté SM et tout ça. Pour elle, c'était, enfin, elle se rendait pas compte de la portée un peu malsaine où quand il y a quelqu'un qui lui dit non mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se masturbaient sur vos photos, et elle dit ah oui peut-être, enfin c'est pas voilà. Et à la fois c'est quelque chose qu'elle minimisait. À la fin de sa vie, sa carrière de photographique, elle disait oui, moi c'est loin, c'est rien pour moi, etc. En même temps, elle voulait pas qu'on la voie à l'âge qu'elle avait. Elle préférait que les gens restent avec l'image. Ouais, donc c'est ça aussi, c'est toute cette complication. Il y a rien de clair chez ces femmes-là. Mais
il y a pas de photo d'elle âgée.
Si, il y en a eu finalement. Alors déjà, il y en a de ses arrestations. Pour le coup, c'est vrai qu'elle a pété le plomb parce qu'on la voit avec le panneau de la police, etc. Et puis, je sais que sur Internet, il y a des photos d'elle, cheveux grisonnants, avec la même frange et en chemise canadienne. Il y en a eu, mais très peu. Et c'est vrai qu'elle aurait pu se faire plein d'argent en faisant des émissions télé, etc. Elle l'a pas fait parce qu'elle voulait vraiment rester sur l'image d'antan.
Alors là, on est sur le projet. Donc ça, c'est l'avant mise en scène, etc. Donc vous êtes documenté, vous avez lu des...
Enfin, c'est avant et en même temps, tout ça, j'y continue de réfléchir.
Pendant, aussi,
alors que je suis à 10 pages d'avoir terminé mon découpage. Mais j'avais pas une fin. Je me suis pas dit, je vais d'un point A à un point B. J'avais plein de choses que j'avais envie d'aborder. Et là, ces jours-ci, quand je suis en train de travailler sur le découpage, c'est le moment de montrer les découpages comme ça, où je sais grossièrement la lignée du chapitre, ce que je veux dire, et ensuite j'ai découpé page par page et case par case ce qui va se passer. Et bien là, ces jours-ci, j'en étais à scénariser la fin, et je me prenais la tête entre les mains en me disant mais... qu'est-ce que je veux dire au final? J'en sais rien. Enfin, c'est pas quelque chose de net.
Alors, le découpage, quand même, effectivement, j'imagine que vous avez choisi dans ce que vous avez récolté dans les différentes lectures que vous avez eues, vous avez choisi des moments clés, des moments un peu dramatiques, peut-être des moments drôles aussi, j'imagine. Il y en a, j'espère, je pense.
Oui.
Parce qu'il y a de l'humour aussi dans votre travail. Et comment ça se passe effectivement le moment où vous décidez de ce qui se passe page après page en fait?
Alors en gros, ça tombe bien, j'ai ramené mes papiers.
Merci. Ça,
c'est les premiers jets d'écriture, c'est tout en lisant. Je me suis dit, voilà, ça, c'est les points importants de leur vie. J'alternais, j'essayais d'alterner Betty Page, Linda, les moments clés, un peu les étapes de leur vie, tout en... Après, j'ai pas mal lu de choses, donc ouais, j'écrivais, et puis j'essayais au fur et à mesure de filtrer les informations. Mais après, au-delà de... Comme c'est pas une réelle biographie, l'intérêt dans tout ça, c'est de savoir où est-ce que moi, je me plais à raconter des choses. Donc, dans chaque scène, ensuite, c'est de me dire, ah ben là, je sens que ça, je pourrais développer, par exemple...
Chercher les choses que vous avez que vous ressentez vous-même, ouais, ou que vous pouvez imaginer.
Que je peux extrapoler, surtout, parce que j'ai personne qui va me dire, alors là, à gauche, il y avait Chuck Trenor, et puis... il s'est penché vers elle, il lui a dit... Enfin bref, on sent quand est-ce qu'on va pouvoir s'amuser avec quelque chose. Parce qu'effectivement, même si je traite de choses...
réelles, oui.
Ce que j'aime bien, c'est que dans la gravité, il y ait de l'humour, parce que c'est ça l'intérêt, quoi.
Justement, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur vos propres souvenirs, d'avoir travaillé sur un matériau réel que vous avez aussi... remis en scène d'une
oui,
manière
ça m'a aidée.
Ça vous permet de redigérer un vécu extérieur.
Déjà, le goût du paradis, je l'ai fait parce que je ne pouvais pas faire autrement. J'aurais été incapable de faire de la fiction. Et en faisant cette autobiographie, je me suis aussi dit que je ne voulais plus en faire, dans le sens où j'avais compris comment scénariser, comment j'avais pris plaisir dans la narration et tout ça. Et je me suis vite rendu compte, une fois que je l'ai fait, que le livre... je me suis dit, maintenant, je vais m'amuser. Ce qui serait plus amusant, c'est de réinjecter, n'importe quel auteur, le fait des passages personnels dans des personnages fictifs. Mais là, c'est vrai que ce matériel-là, de partir de gens réels pour les faire vivre à sa façon, moi, c'est quelque chose que je trouve très arrangeant. Enfin, moi, c'est comme avoir, oui, des poupées, sauf qu'en plus, il y a déjà de la matière.
Est-ce que l'imaginaire américain vous parle particulièrement, c'est une manière aussi d'être dans une forme presque fictive, parce qu'on a beaucoup...
Oui. Ça me parle plus pour le côté glamour.
Oui, c'est ça.
Et puis même, j'ai autant en littérature qu'en cinéma, c'est vrai que y a une culture de l'image, quoi, et quelque chose de populaire que j'arrive même pas à expliquer, mais qui me fait complètement fantasmer et qui est graphique. L'Amérique, c'est graphique.
Vous êtes allé aux États-Unis pour...
Je suis allé à New York et c'était super.
D'accord, mais pas à Los Angeles alors.
Non, j'espère bien me faire inviter par l'Alliance française quand j'aurai sorti ce livre.
C'est Martinon, je crois, maintenant, à Los Angeles. Hein, mais bon.
Comment ?
Après, c'est un choix politique, hein, mais ouais. C'est Martinon maintenant, David Martinon, à l'Alliance française de Los Angeles.
D'accord.
Voilà. Donc, parlons donc de la mise en scène particulièrement.
Est-ce qu'il faut que je dessine à un moment ?
Oui, d'accord. Oui. Enfin, si vous le désirez.
Hein, oui, on va essayer. Donc oui, quand je travaille, j'ai des livres de photos, parce que oui, je suis un truc qui est important, je pense, dans la manière dont je travaille, c'est que les livres de photos, je suis aussi touchée par la photographie que par le cinéma, et je suis... beaucoup plus friande de livres. Si je devais aller sur une île déserte, je prendrais des bouquins de photos et des films, plus que de la bande dessinée, par exemple. Je me passe plus facilement de la bande dessinée que des livres de photos comme ceux que j'ai là. Donc par exemple, pour cette bande dessinée, évidemment, j'ai plein de repères visuels, dont le livre de Robert Frunk.
Alors, que raconte la page sur laquelle vous êtes en train de travailler, enfin, qui est encore vierge, là, qu'on voit?
Alors, celle-ci, elle raconte... ça, c'est un chapitre que j'ai crayonné aujourd'hui. C'est quand il y a une féministe qui s'appelle Gloria Steinem qui a contacté Linda Lovelace après ses passages télé où elle vendait son autobiographie sur laquelle elle clamait qu'elle avait été victime de violences et que, en fait, quand on regardait Gorge Profonde, on assistait à son viol et que c'était vraiment pas bien de la pornographie, etc. Enfin bref, elle a, à ce moment-là, elle savait pas du tout ce que c'était le féminisme et tout ça, jusqu'à temps que vienne la contacter cette dame qui s'appelle donc Laura Stenheim, qui était une rédactrice d'un magazine qui s'appelait Mrs. et qui faisait plein d'autres choses. Et donc moi, ce que je savais, par exemple, ce que j'ai lu dans les livres, c'est qu'elle l'a contactée par téléphone et qu'ensuite, elles ont discuté ensemble. Alors donc moi, je suis partie de ça. Et donc je fais venir Gloria Steinem dans la petite baraque de Linda Lovelace qu'on voit là. Là, c'est le personnage de la féministe. Donc Linda, à ce moment-là, elle vit d'aide sociale avec son deuxième mari. Elle a deux enfants et c'est vraiment la merde. Enfin, elle a pas d'argent. Elle veut plus faire de porno depuis longtemps, etc. Et donc là, c'est la discussion, c'est un peu le choc des cultures entre la féministe qui arrive et puis Linda qui est à la fois très curieuse de qui est toute oui de ce que peut défendre Gloria Steinem, tout en disant oui, mais j'ai ma tarte au four, et puis il y a son mari qui arrive et qui est lui aussi enfin, je m'aperçois que je suis pas très claire là, en parlant,
si,
comme je suis en plein dedans, c'est pas très très évident
à raconter. Oui. Disons que le discours extérieur est violent pour elle parce qu'en fait, elle a pas de recul par rapport à ce qu'elle faisait et que c'est ça que vous voulez dire, quoi. Elle était dans.
Mais en fait, elle, dans ce qu'elle disait toute seule, c'était les prémices de ce que va lui simplifier Gloria Steinem, et elle, les féministes à l'époque vont utiliser le discours de Linda. Trop contente que cette femme qui pour elle leur faisait de long, parce que elle était là à dire ouais, le porno, mais c'est super, mais moi j'adore, mais il y a aucun problème, tout le monde devrait se libérer, etc. Donc c'était un peu l'ennemi des féministes, ouais. Et tout d'un coup c'est l'aubaine, cette femme, elle dit que non en fait, si elle a fait les pornos, c'était en fait forcé, tout ça. Donc elle arrive avec, en fait, elle va lui donner le discours que Linda va utiliser ensuite pour militer elle-même. Elle va lui jouer un peu le rôle de mentor. Et donc là, c'est le chapitre où je raconte ça. Et à la fin de ce chapitre-là, il y aura une voix off qui dira que, en même temps, dans les années 90, elle refera des photos de charme parce qu'elle sera au fond du trou financièrement. Donc voilà, ça c'est mon dernier chapitre où on la voit. Et c'est encore un retournement de situation. C'est assez. C'est la pauvre, quoi. Enfin, elle n'a pas arrêté de se remettre en question. Et voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Alors, allez-y, dessinez maintenant.
Dessinez maintenant. D'accord. Ah, par contre, juste, je vais montrer, avant de dessiner, par exemple, à quoi ça ressemble.
Ancré.
À quoi ça ressemble, ancré, par exemple, le personnage de Linda Lovelace. Là, ça, par exemple, c'est elle. Elle, c'est elle qui travaille dans un drugstore pour joindre les deux bouts. Voilà, ça c'est les pages.
Et pendant qu'elle était actrice, elle était aussi, elle travaillait pour un drugstore en parallèle.
Non, ça c'est après.
D'accord.
Non, c'est dans sa période faste, elle faisait pas de petits boulots comme ça. Bon, maintenant je dessine. Donc en fait, je reprends à chaque fois, je me suis. Le découpage, c'est le travail mâché, quoi. Il reste plus. Donc là, je vais prendre. On voit bien.
Ouais.
Je vais prendre cette page-là. En fait, en tout petit, c'est beaucoup plus facile d'avoir les intentions de positionnement des corps et les angles de vue. Quelque chose que j'arrive à faire en tout petit, j'essaye de le reproduire en plus grand. Et en fait, ça joue vraiment parfois pas au millimètre près, mais enfin si, oui, presque, des intentions d'inclination. Enfin, moi, c'est des choses auxquelles je tiens beaucoup, quoi, les mouvements des corps. Quoi. Enfin, d'ailleurs, c'est vraiment les gens que j'aime dessiner, plus que les bâtiments ou les chaises. Mais...
Ce qu'il y a aussi d'un peu organique dans votre dessin, c'est même les cases qui sont rondes et pas carrées, pas dures en fait. Elles sont douces, les cases aussi.
Ouais.
Il y a quelque chose de pas mécanique dans les cases elles-mêmes.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas si souvent.
Je trouve que ça me correspond. Je me vois pas faire des cases pointues. Je sais pas. Peut-être que c'est dû au fait que j'ai pas baigné justement dans cette ambiance bande dessinée. En fait, c'est à Angoulême que j'avais vu une expo de dessinateurs finlandais et ils avaient les cases rondes comme ça. Et ça m'avait.
Il y a un dessinateur finlandais, ok, j'ai oublié son nom là.
Oui, je ne sais plus comment il s'appelle.
Aupo Rapi, je crois, il s'appelle comme ça, je crois. Il est assez proche de votre. Même de votre dessin, quelque chose de rond dans le dessin aussi.
Mais c'est, ouais, c'est le côté
je crois que c'est
rétro aussi que j'aime bien. Que c'est, effectivement, ça fait plus années 70 aussi.
Oui, ça correspond au récit, donc.
Oui. Alors...
Vous écoutez de la musique quand vous dessinez, actuellement ?
Oui, j'en suis bien contente. Mais maintenant,
quoi ?
Je travaille en atelier.
Quel genre de musique ?
De tout, mais j'ai la chance aussi d'être en atelier avec des gens qui, eux-mêmes, en écoutent beaucoup. Donc, c'est pas moi qui fais la DJ tout le temps.
Vous pouvez nous dire avec qui vous travaillez en atelier ?
Avec Frédéric Felder.
Qui est aussi
très proche des Requins Marteaux, qui est scénariste.
Francky Ballonnet, rédacteur en chef de Ferraille. Oui.
Voilà. Ciseau, un graphiste de génie.
Qui a co-signé l'affiche du Festival d'Angoulême, le prochain, s'il
tout
a
à
lieu.
Fait. À
avec Blutch.
De son front. Et avec Céline, qui est une ancienne de l'association, qui fait du lettrage. Et des gens qui font pas de monde dessiné aussi, qui font des sacs.
Des sacs.
Oui. C'est sympa d'avoir. Mais c'est bien. Qui est bien, c'est de pas baigner dans que. Enfin, c'est pas la bande dessinée stricto sensu, quoi.
Et c'est de la musique, donc pas de la radio. Une parole extérieure et.
Des fois la radio américaine, WFMU.
Sur Internet alors.
Sur Internet.
D'accord. Et il y a un ordinateur sur la table aussi du...
Oui, mais je m'en sers principalement pour Internet et ensuite pour retoucher mes images. Une fois scannées, je les nettoie un peu. Mais sinon, je ne suis pas du tout une adepte d'ordinateur.
Vous faites une mise en place très, très rapidement, en fait.
Oui, enfin là, je fais... Je bâcle un peu.
D'accord.
Non, parce que sinon, bon, ça, c'est aujourd'hui, quand il n'y a pas de caméra...
Oui, c'est un peu fictif, forcément, cet exercice. Mais...
Oui. Enfin, j'essaye de faire pas trop mal, mais...
Ah non, ça... Je crois que ça va. Hein. C'est...
Et en fait, là aussi, je sais, par rapport aux phrases que je marque, l'espace dont j'ai à peu près besoin pour le texte. Je sais, par exemple, là, je pourrais placer mon texte ici, qu'a priori, elle ne va pas dire beaucoup plus... etc. Mais après, c'est un arrangement, c'est des petits arrangements.
Les dialogues, d'ailleurs, justement, ils sont déjà écrits sur le cahier qu'on voit. Ils sont écrits en petit aussi, ou vous avez un autre...
Non, ils ne sont pas plus écrits que ça. En fait, j'ai des bonnes phrases, des petits... Et ensuite, je lis au final les bonnes phrases, enfin, que j'estime bonnes, entre elles. Et c'est un peu la cuisine, hein, quand même, la bande dessinée. Mais ce qui est... ça, je l'avais déjà dit dans... Enfin, j'avais été filmée une fois en train de dessiner par le site Even, et je l'avais dit, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, quand on commence, de à quel point c'est long. Et, enfin, si on savait à quel point c'est long... laborieux, fastidieux, on le ferait pas du tout, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut se faire plaisir aussi, c'est-à-dire que moi, dans chaque chapitre, je sais que je vais m'amuser à faire quelque chose. J'essaye de me faire plaisir. Je suis pas du tout pour les sacrifices humains. Je vais pas. Par exemple, il y avait une scène de procès où je me disais à l'avance, mais qu'est-ce que ça va être chiant de dessiner ça. Et donc, j'essaie de. Faut ajouter un truc qui fait qu'on a envie de le faire. Et enfin, faut vraiment. Je pense que on a la chance quand on a la chance de faire ce métier dans le sens où on gagne de l'argent avec, en faisant ce qu'on aime. Faut aussi, on se doit de continuer à se faire plaisir, sinon on fait rien de bon. Enfin, je pense vraiment que faut que ça reste un. Faut pas se forcer. Je parle un peu fort, non ?
Non, je trouve ça. Jean-Claude Forest disait qu'il se gardait toujours dans une planche une case où il savait qu'il allait pouvoir faire un très beau dessin pour justement se détendre.
Oui, ouais, c'est important.
La narration pure.
Ou dans le dialogue. Des fois, j'ai un peu honte parce que je lis des pages et je rigole toute seule. Donc, je suis bon public avec moi. Et un autre, je pense que le fait que j'ai pas. Je suis assez difficile en tant que lectrice en bande dessinée parce que je pense que j'essaie de me faire plaisir à moi. Et que je me dis que comme je suis difficile en général, je me dis, bon, déjà, si ça me plaît, c'est pas mal. Bon, après, je sais bien que ça peut pas. De toute façon, je veux pas toucher la terre entière, c'est pas du tout. J'aime bien l'idée que ça touche des gens. Qui me. Comment dire ? Par exemple, avec Le Goût du Paradis, les dédicaces que j'ai faites, c'était agréable de me rendre compte que les gens qui achetaient mon livre, eh ben, ils avaient l'air chouettes, en fait. Et par contre, c'est peut-être un truc après, avec le succès, c'est un truc que peut-être qu'on ne maîtrise pas. Et moi, ça me va tout à fait, le fait de savoir, pour a priori, à qui vont plaire mes livres. Ça me plaît de savoir que. Déjà aussi, j'ai beaucoup d'amis qui. Dont j'apprécie les goûts, etc. Donc, le fait de savoir qu'eux, ils aiment. Déjà, c'est un gage
de plaisir.
De satisfaction. Ouais. Là, je vois même plus ce que je dis.
Alors, il y a une notion de dramatisation. Par exemple, là, il y a des cases qui sont un peu plus petites. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus intime qui se passe dans ces cases-là.
Au contraire, quand c'est petit, c'est que c'est plus du ressort du texte.
Oui.
Parce que, non, j'ai plutôt tendance à. Enfin, moi, plus c'est fort, plus c'est gros.
D'accord.
Plus c'est des gros plans, quoi. C'est comme Serge Léon. Ça passe. D'ailleurs, enfin, moi, quand je dessine. Enfin, pour moi, j'ai l'impression de faire mon film, de découper comme un storyboard. Enfin, c'est des angles de vue et c'est gérer le rythme et l'émotion avec le format des cases. Enfin, c'est ça la bande dessinée. Quoi.
Comment ça se gère le point de vue, justement ? Comment on décide de l'angle du dessin, de ce qui est mis en avant, là, par exemple, dans la case que vous avez fait en deuxième. Il y a un avant-plan.
Je vais plutôt revenir sur celle
oui,
que.
Sur
parce que celle-là, elle n'est pas tout à fait
fini.
Aboutie. Par exemple. Oui, mais il ne se passe rien de majeur là-dessus. Ah, si. Là, par exemple, donc il y a la féministe et il y a Linda sur son canapé. Donc il y a. La féministe a commencé à déblatérer. À déblatérer sur ce qu'elle pense de la vie de Linda, etc. Et puis tout d'un coup, elle se retrouve seule parce que Linda doit faire un truc dans la cuisine. Et c'était intéressant de montrer en gros plan la féministe toute seule dans l'intérieur un peu misérable de Linda avec le chien qui fait waf waf et l'enfant. Enfin, c'est la féministe face au chien déjà, chienne. Enfin. Le côté chaîne de garde, donc je la mets à côté d'un chien et d'un enfant, c'est genre qu'est-ce qu'elle ou là tout d'un coup elle a des sueurs froides et
donc le personnage de la féministe ne vous est pas sympathique a priori.
Sinon, mais si. En fait je pense que là j'essaye de simplifier pour dans ce que je dis c'est plus compliqué que ça, mais non,
oui.
Elle n'est pas.
Elle n'est pas antipathique.
Non, elle n'est pas antipathique. Alors, bon. Je pense que je m'exprime pas très bien pour essayer de faire court, mais.
Non, vous l'exprimez.
Non, elle n'est pas antipathique.
Mais elle est peut-être gênée parce qu'elle s'attendait à autre chose. Là, dans la scène, elle s'attendait peut-être à une autre situation pour cette personne, peut-être.
Non, c'est ouais. Et aussi, elle se rend compte que, enfin, elle se rend compte. Elle doit se dire que Linda n'est pas sortie de l'auberge, quoi. Parce ouais, que même ça. Si elle a, même si elle revendique son pass, enfin, comment dirais-je, son, c'est, ça va être une alliée des féministes, mais en attendant, elle est dans sa cuisine et puis elle fait à manger pour son mari. Quand son mari rentre. Et,
elle est dans et, une certaine aliénation. Quoi.
Voilà, donc quoi qu'il en soit, il va y avoir du boulot avant que ça soit une icône du féminisme. Mmh. Ça, c'est ce que moi je me dis, mais entre, je me suis aussi rendu compte dans ma bande dessinée, en la faisant lire, que entre ce que j'ai dans la tête, ce que je mets, ce que je peux en extraire, ce qui est à peu près clair. Déjà, enfin, parce que c'est beaucoup plus compliqué ce qui se passe dans la tête qu'ensuite il faut réduire, forcément. Est-ce que la perception des gens... enfin, il y a plein d'informations qui passent aux oubliettes, quoi. Et puis même entre la bande dessinée que j'aurais voulu faire et celle que je fais, parce que je peux pas... Enfin, voilà, chacun fait avec ses moyens et...
Il y a, bon, là on voit dans la planche il y a un avant-plan où on voit un personnage masculin. Quel est quel est le regard des hommes que vous rapportez dans ce est-ce que ça compte aussi hein? Est-ce qu'il y a des personnes, bon, il y a Hugh Hefner, je crois, qui est le rédacteur en chef, le directeur de Playboy, ouais. Propriétaire, je sais pas ce qu'il est,
le créateur, le fondateur. Est-ce que les hommes, ils sont quand même un peu plus au second plan et face à Betty, ils sont complètement fascinés. C'est ça aussi qui m'intéressait, c'est le côté. Enfin, pour les hommes, elle est restée insaisissable, intouchable, même dans la réalité, quoi. Tandis que Linda Loveless, elle a plus été manipulée à chaque fois par. Par des hommes. Mais je ne sais pas si... je ne me suis pas posé cette question. Tiens, est-ce que... Enfin, je ne veux pas faire jouer de rôle aux hommes. Enfin, c'est absolument pas une bande dessinée militante du tout. C'est pas...
Et la nuance entre justement, la nuance... Betty, elle est dans la fantasmagorie, dans l'érotisme et... l'icône, vraiment, alors que Linda Loveless, elle est plus dans ce qu'on peut appeler la pornographie, vraiment l'acte en lui-même. On n'est plus dans le fantasme, on est dans la réalisation de l'acte sexuel. Ces nuances-là, elles sont présentes dans
ouais,
le livre.
Sauf que c'est pas, enfin, moi, c'est pas très théorisé. J'ai pas spécialement théorisé le fait que l'une passe à l'acte. Enfin. C'est pas cette notion-là qui m'intriguait particulièrement. J'aurais aimé dire quelque chose de plus intéressant.
Là, vous êtes presque à la fin, alors.
Oui, il me reste 15 pages à crayonner.
Donc ça veut dire dans quoi
dans
un
4
mois
jours. Ah non, crayonner 15 pages, heureusement que ça ne me prend pas. Non, non. Par exemple, aujourd'hui...
Non, le livre sera fini
Ah, il sera terminé, mais enfin, ça, pour le coup, les délais sont durs pour moi. Mi-janvier, pour sortir en mars. Donc là, c'est... Il faut, une fois que j'ai terminé, je rentre dans les détails, hein, c'est sur mon champ, une fois que j'ai terminé de crayonner ces 15 pages, bah, du coup, je me retrouve face à toutes les pages qui me restent à ancrer, qui sont crayonnées d'avance, et j'en ai 60. Donc j'ai 60 pages à crayonner, tout en retouchant les images qui sont scannées par l'association, en relisant, en faisant la couve, les cabochons. Donc non, c'est...
Quelle est l'intervention de l'éditeur dans le travail là?
Bah, ça dépend des éditeurs. En l'occurrence, l'association, je ne sais pas bien encore parce qu'on n'en est pas là. Enfin, je pense que quand il aura tout dans les mains, menu, peut-être. Moi, je lui ai demandé, par exemple, d'être attentive aux obstacles que pourrait poser ou le dessin, parce que je ne suis pas du tout un génie. C'est difficile, par exemple, que les personnages se ressemblent. Les filles, je les maîtrise bien, par exemple, mais les hommes, je me rends compte que des fois, leur visage, je les tiens moins. Et donc, je veux qu'il n'y ait pas d'obstacle superflu à la lecture et qu'on se dise « Ah, mais c'est qui, lui ?» et qu'on tourne en se disant « Ah oui, page 23, c'était lui qui disait ça. » Enfin, je ne veux pas qu'il y ait des choses trop gênantes comme ça. Et comme c'est assez touffu, qu'il y a plein de chapitres, il y aura sûrement dans le texte des incohérences ou des choses... Et après, moi, ce que je demande à mes amis autour de moi, c'est une fois qu'ils ont lu, c'est un chapitre, par exemple, voilà, qu'est-ce que tu sais de plus en lisant ce chapitre sur tel personnage ? Et donc, il me dit ça ou ça. Et moi, si je pense que je suis passée à côté d'un truc, j'essaie de revoir dans le dialogue, parce que je ne peux plus trop intervenir sur le dessin, dans le dialogue, de faire passer quelque chose, s'il en a encore temps. Et c'est de voir dans... où sont les... qu'est-ce qu'il y a de majeur qui peut passer à la trappe dans le dialogue, par exemple.
Mais votre approche du récit, du scénario, elle est essentiellement non visuelle, puisque le découpage, on le voit, il y a une étape qui est textuelle ou pas du tout ? Enfin, c'est tout de suite dans le visuel.
Non, c'est... d'abord, j'ai les d'abord je sais ce qui va se passer... Je sais ce qui va se passer dans un chapitre. Je sais que là, par exemple, Linda va rencontrer la féministe et qu'elle va être, elle va prêcher la bonne parole, qu'elle va retransmettre ensuite, pour qu'à la fin, on sache que oui, en même temps, elle est revenue vers la photo de charme. Donc voilà, je sais ce que je veux dire ça. J'estime à peu près le nombre de pages pour délayer ça dont j'ai besoin. Et ensuite, page par page, j'essaie toujours qu'il y ait une chute à la fin d'une page. Enfin, pas une chute, mais quelque chose qui fait qu'on a envie de tourner la page suivante. Donc, qu'à la fin, en tous les cas, à la fin, on se dise, on a envie d'aller à la page de droite et ensuite de tourner la page de gauche. Pour moi, c'est très important qu'il se passe quelque chose dans chaque page. Et que... le découpage que je peux pas qu'il y ait des cases inutiles de cases passe-moi le sel ou des trucs comme ça, je veux que chaque image soit indispensable et fasse passer quelque chose. Donc après, je sais que je surestime complètement ce que j'arrive à faire passer une case, mais je veux garder ça, c'est une exigence que j'ai pour moi-même et qui après je me rends compte qu'elle n'est pas flagrante, forcément. Quoi. Mais en tous les cas, j'essaie de faire ça. Et ensuite, est-ce qu'on voit... Ouais. C'est un peu flou, non ? Enfin, bref. Oui, mais ensuite, je découpe l'action comme un storyboard. Voilà. Je vais continuer à dessiner.
Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Stéphane ?
Oui.
Pardon, bonjour, je suis bien entendu, je suis photographe. Je sais que Balzac, c'était un écrivain qui travaillait, il passait toutes ses nuits à écrire ça. Je voudrais vous poser la question, vous, est-ce que vous avez un endroit privilégié, est-ce que vous avez des horaires définis, est-ce que vous avez besoin de vous concentrer dans votre travail individuellement, sans être dérangé parce que beaucoup d'artistes travaillent différemment. Quel est votre temps ? Merci.
Eh bien, c'est une question intéressante.
Est-ce que vous avez une chambre à soi ?
Avant, je dessinais chez moi. Mm-hmm. Tant que ce n'était pas à plein temps, le dessin, je dessinais chez moi, sur mon lit. Mais donc, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un besoin d'être seul. Mais en fait... une fois que j'ai... comment dire, tant que je pouvais sortir de chez moi par mon travail à côté, ça ne me dérangeait pas d'être cloîtrée chez moi. Or, maintenant que je fais ça à plein temps, je ne me vois pas du tout rester chez moi toute la journée. Je deviendrais folle. Donc l'atelier, c'est une super alternative parce qu'il y a on se retrouve avec plein de gens qui font des travaux solitaires, mais on est en commun. Et donc je travaille plutôt la... je suis plutôt de la journée. J'aurais adoré faire partie du mythe des gens qui qui sont insomniaques et qui travaillent toute la nuit. Je fantasmais beaucoup là-dessus quand j'étais petite en me disant waouh, je vais travailler sur mon plan de travail toute la nuit, à pas voir les heures passées. Or, c'est pas ça du tout. En fait, la nuit, j'ai plutôt envie de dormir. Et je bosse beaucoup la journée et je peux me concentrer. Mon lieu de prédilection, c'est quand même l'atelier. C'est vrai que j'aime pas trop être déplacée.
Avec des horaires précis, pour répondre aussi, avec une discipline, disons, de travail, ou ça varie?
Bah, je travaille de... Ouais. Enfin, là, en ce moment, par exemple, je travaille de 9h à 20h du soir, des fois plus tard. Mais le truc qui est aussi de se faire plaisir, c'est d'alterner. C'est-à-dire qu'on... ce qui est bien, c'est de bosser sur le scénario ou sur le découpage, donc intellectuellement la moitié de la journée et l'autre partie dessiner, faire de l'exécution quoi. Mais c'est bien de mélanger, de varier les plaisirs, parce que de l'exécution faut pas non plus, enfin je suis pas une machine non plus quoi, mais il y a un moment donné là par exemple pour terminer ma bande dessinée, il faudra que je sois une machine à ancrer mes pages quoi. Mais voilà.
Une question fond.
Bonsoir. Dans le premier livre que vous avez publié, Le goût du paradis, c'est un livre autobiographique.
Oui.
Et là, vous faites un livre biographique. Est-ce que pour vous, c'est une sorte d'évolution, ou alors vous avez l'intention, enfin, peut-être par la suite, de revenir à l'autobiographie?
Non, je veux plus. Je pense pas que je veuille
Pourquoi
revenir à l'autobiographie, parce que parce que je préfère diluer toutes les petites choses qui me sont arrivées, qui sont. Je préfère les diluer au fur et à mesure dans plein de, pour alimenter plein de choses plutôt que d'en faire une en conditionnant tout ça. Et puis c'est vrai qu'il y a une forme de, quand même, ça m'a fait un peu bizarre quand mon livre est sorti, que, par exemple quand il y avait des papiers de journalistes dessus, bah, qui parlent de Virginie, de finalement les critiques, les papiers, c'était sur ma vie aussi. Et du coup, c'était pas spécialement. Enfin, je sais pas. Et en plus, je me suis vraiment demandé. Enfin, s'il y avait une facilité pour moi à faire ça, l'autobiographie, parce que forcément, on sait plus parler de soi que quelqu'un d'autre. Et je veux pas tomber dans la facilité de faire l'autobiographie. Donc, pour la première, c'est sûr que je pouvais pas faire autre chose. Et de toute façon, donc je l'ai faite et j'en suis contente. Mais je veux pas reproduire. Ça, et puis pour dire quoi, parce que mine de rien, même si on dit il faut écrire, faire la suite du goût du paradis, ça serait parler plus de sexualité, faut écrire comme si ses parents étaient morts, ça c'est vrai, c'est sûr et certain, mais c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Je me vois mal parler de ma sexualité et puis de mettre des noms des gens. Là, je trouve que c'est parce que ça implique pas que soi, ça implique les gens autour de soi, et des fois ça peut faire mal. Mais après, je sais qu'il faut pas finalement se les poser. Enfin, si on écoute ses raisons, on fait plus rien. Mais bref, non, je ne referai plus une autobiographie.
Une autre question? Non.
On peut voir quelques planches ancrées pour voir ce que ça donne.
Et on n'a pas vu Betty, en fait. On a vu Linda Lovelace. Mais...
Alors, ça, c'est le procès où je me suis dit que ça allait être super chiant ancré. Donc ça, c'est les pages de maintenant. Ouais, il y a des scènes de sexe. Alors, Betty... Elle est... Je vais vous la montrer, parce qu'au début, elle n'a pas sa frange, donc on l'a... Le commun des mortels ne peut pas la reconnaître. À partir de quand elle a sa frange? Je vais essayer de faire vite. Donc Donc là, c'est le chapitre où elle se coupe la frange, et donc c'est un peu ce qu'il a... Moi, j'en fais un élément clé de sa vie. Et Betty Page est née.
D'accord.
C'est très plaisant de la dessiner, hein, parce qu'elle elle est...
Ouais, elle est très graphique, en fait. Ouais. Expressive.
Ouais.
Très expressive.
Et très innocente.
Et donc, justement, par rapport à sa personnalité, le doute que vous évoquiez tout à l'heure, elle l'était vraiment ou elle le jouait jusqu'à quel point elle était innocente de ce qu'elle faisait?
C'est... Ben, j'en sais rien du tout. Mais ça me plaît, le fait de...
De ne pas le savoir, justement.
De ne pas savoir. C'est, après, c'est... Même ses amis, on ne peut pas savoir ce qu'ils ont dans la tête. Enfin, les gens qu'on connaît très bien, alors... Enfin... Et on fait avec. Donc, j'aime bien l'idée de faire avec tous les doutes que je peux avoir là-dessus. Et de surtout pas juger, enfin...
Mais elle n'a jamais... Moi, j'ai pas du tout... Je sais pas, je connais que des petites choses comme ça, mais elle n'a jamais eu d'ambition autre artistiquement que
si,
d'être
si,
pin-up, en fait.
Elle a fait des essais, des bouts d'essais à Hollywood, mais elle était assez, par contre, ça s'est avéré, elle était très intègre, elle ne voulait pas coucher pour réussir, et elle avait l'occasion de coucher avec Howard. Enfin, Howard Hughes voulait absolument la rencontrer, etc., mais elle savait très bien ce que ça engendrait, et elle voulait pas passer par là. Donc elle a suivi des cours de théâtre, elle a joué dans des pièces, elle a fait des pubs à l'époque, elle a apparu dans plein d'émissions télé de l'époque, mais il n'y a pas eu le petit truc en plus. Alors déjà, il faut savoir qu'elle avait un accent du sud à tout casser, quoi, donc ça aidait pas, et les bouts d'essai se sont révélés pas concluants à Hollywood, quoi.
Parce que ça aurait pu être le double brun de Marilyn, parce qu'il y a quelque chose quand même à voir aussi.
Comment ?
Ça aurait pu être le double brun de Marilyn, parce qu'il y a aussi beaucoup. C'est une figure sexy et humoristique, comme chez Marilyn, qui a une grande dimension drôle.
Ouais. Mais elle a interrompu sa carrière, en fait, de manière assez prématurée, Betty Page, parce qu'il y a eu. C'est ce que je raconte dans mon dessiné, évidemment, mais il y a eu toute une campagne anti-obscénité qui visait et les comics américains. Ouais. Et toutes les images qui pouvaient être considérées comme obscènes, donc les photos dont elle était la modèle principale, enfin, c'était les photos bondage, etc., le photographe avec qui elle travaillait a été en procès, et donc ça l'a mise, enfin, ça a mis sa réputation à mal, et des photos qu'elle avait faites qui étaient dans des circuits plus privés, où parfois les caméras works, c'était des petits clubs de caméras, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque, autant Wiggy que d'autres, ils se réunissaient, ils payaient un modèle, et puis ils étaient 15 autour d'elle, et ça se faisait de manière assez institutionnelle comme ça, mais et après il y avait des circuits un peu plus privés, et elle a posé jambes écartées quelquefois, il y a des photos d'elle comme ça qui circulent. Mais ça, elle n'aurait pas dû circuler, et ça a coïncidé avec les affaires avec les procès. Et là, elle s'est dit qu'elle a préféré se retirer plutôt que d'être face à ces polémiques. Je pense qu'elle était fatiguée, parce qu'elle a pas mal ramé quand même aussi. Donc, ça, c'est aussi ce dont je voulais parler dans ma bande dessinée, qui fait sûrement mon parallèle avec moi, mes espoirs et ma volonté de vivre de ce que j'aime. C'est elle, qu'est-ce qui vient, ces deux femmes-là, elles avaient des espoirs, elles avaient des envies de carrière, et c'est tout ce qui se passe avant qu'on considère qu'elles soient en place. C'est tous ces moments où on croit que la porte, qu'on a ouvert une porte et hop, ça va marcher. Et ben non, c'est pas encore pour maintenant. Ah, qu'est-ce qui fait dans la vie qu'à certains moments, ça fasse passer la barre au-dessus. Parce qu'il y a plein de moments où on croit qu'on va monter une marche, et en fait, non, il ne se passe rien. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi.
Et quelle est la part dans votre livre de l'arrière-plan du déterminisme social, de toutes ces choses, enfin, de leur
pas...
milieu d'origine
C'est plutôt du décorum pour moi. Enfin, si j'étais plus cultivée, plus, j'adorerais mélanger de manière plus forte l'arrière-plan social. Et je dois dire qu'il est quand même... c'est dans ma bande dessinée, c'est plus du décor. J'aimerais bien être Emmanuel Guibert et pouvoir mêler tout ça, mais j'ai pas cette... c'est vrai que je fais avec les moyens de mon bord et le contexte social est plus en représentation qu'en poids.
Et vous arrêtez où, en fait, dans la biographie de ces deux? Parce qu'elles sont mortes toutes les deux. L'une est morte dans des dans un accident, je crois.
De voiture. En 2001, Linda Lovelace et Betty Page, donc l'année dernière. Je m'arrête donc en 99, quand ni l'une ni l'autre n'est morte, mais elles sont toutes les deux, elles ont traversé des périodes très difficiles et elles sont un peu en stagnation, mais avec un vécu pas possible derrière elles et un peu. Donc, le fil rouge de ma bande dessinée, ce qui lie ces deux histoires, c'est deux jeunes filles qui viennent voir Hugh Hefner de Playboy en leur disant « Voilà, nous, on veut poser pour Playboy. » Et lui, en une espèce de mise en garde, il leur dit « Attendez, vous voulez faire ça, vous savez un peu où est-ce que vous mettez les pieds avant de... » Donc il fait un peu comme dans le conte de Noël de Dickens, il fait se balader dans la vie de ces filles-là. Et à la fin, on se dit, parce que pourquoi il fait ça? Parce que lui, c'est pas...
c'est pas un enfant de cœur,
oui. Oui, c'est pas un enfant de cœur. Donc la fin aussi était difficile pour moi à cerner parce que il y a un petit ressort narratif par rapport à ça.
On ne va pas le dire.
Voilà.
Et elles ne se sont jamais rencontrées?
Non. J'aurais pu les faire se rencontrer, mais... Non.
Oui, une question.
J'ai une question. Donc j'étais un peu en retard... Je parle fort. J'étais un peu en retard, donc j'ai peut-être manqué des infos capitales au début, mais je voulais savoir si vous travaillez en couleur ou si le noir et blanc, en fait, c'est juste pour cette BD, pour donner le côté rétro, justement, des années 50. Enfin, je ne me rappelle plus exactement l'époque de Betty Page, mais ça devait être dans ces eaux-là.
Oui.
Donc le côté rétro avec aussi les cases rondes, etc.
Alors, pour moi, la bande dessinée, c'est forcément... Enfin, c'est forcément en noir et blanc. En même temps, je fais une bande dessinée pour Glénat qui va être en couleur. C'est le côté... pour le côté rétro, le noir et blanc a beaucoup plus de force, selon moi. La couleur... Je suis pas très adepte, moi, en bande dessinée, parce que j'aime pas le côté patchwork. J'adore... je travaille en couleur, mais plutôt quand je fais des dessins d'illustration... j'aime bien que la couleur soit pour une image et qu'elle soit pas parasitée par une image en face. L'harmonie des couleurs peut vite tomber quand on en bande dessinée. Donc c'est là par exemple, au départ je devais pas la faire à l'association. Il était prévu que je la fasse chez un autre éditeur qui voulait la mettre en couleur et tant mieux que ça se soit pas fait parce que ça s'est pas fait pour d'autres raisons. Mais moi en plus j'ai refusé. J'ai refusé au final la couleur parce que ça perdait vraiment du côté passé et il y en a pas besoin une fois parce que il y a pas besoin de couleur si on n'a pas réfléchi en couleur moi je l'ai pensé en noir et blanc, je l'ai vu en noir et blanc donc ça serait vraiment de la surcouche la couleur faut que ça soit pensé en même temps que le dessin je pense quand ça existe.
On va juste attendre le micro. Est-ce que c'est la rencontre est archivée donc question première. Enfin, deuxième.
Excusez-moi, j'ai une petite question. En suivant avec le noir et blanc et la couleur, je crois que faire la bande dessinée en noir et blanc, je crois que c'est plus dur que le faire en couleur parce que je vois que les visages en blanc, les cheveux plus noirs, plus clairs, tout ça. Et il faut encadrer les visages avec un crayon noir pour encadrer les visages blancs. Je crois que c'est plus dur que de faire en noir et blanc qu'en couleur, à mon avis.
Non, je pense pas que ce soit plus... c'est pas plus difficile. C'est une autre pratique, mais... Non, je trouve pas que ce soit. Enfin, je suis pas d'accord avec le fait que vous disiez que ce soit plus facile, mais. Oui, qu'est-ce que.
Est-ce que la couleur apporterait une dimension dramatique ou que vous souhaitez pas?
Il n'y a rien de plus dramatique que le noir et blanc, en fait.
Ça enlèverait, au contraire.
Ouais, ouais. Par exemple, et moi j'aime pas du tout les aquarelles en bande dessinée. Enfin, pour moi, ça gâche complètement. Moi, j'adore, Close, Crème. Après Close, il y a de la couleur, mais j'aime bien quand c'est un traitement de couleur avec une vraie approche d'époque, comme Pinocchio, Da Vinci Code. Ou j'aime bien qu'il y ait une texture de temps, quoi. Et la couleur. Non, enfin, pour moi, c'est vraiment important.
Ce qu'on oublie, c'est que la bande dessinée, enfin, beaucoup, la bande dessinée d'origine, elle est en noir et blanc, en fait, presque depuis toujours. Hein.
Oui, mais comme je ne connais pas.
Non, mais donc, du coup, ça fait partie presque de. C'est constitutif, bref, hein, presque aux médias, au départ.
Moi, je trouve ça beaucoup plus fort. C'est vrai que ma bande dessinée, chez Glénat, il y aura des touches de couleurs, ouais, parce que c'est une ambiance. Post-ado, des filles, avec il y a beaucoup d'importance aussi de la façon dont elles sont habillées, ça sera par touche la couleur, mais il y a un côté divertissement qui est bon. Après là, je suis pas en train de faire une tragédie non plus, c'est pas le cas, mais
c'est pas un sujet hyper léger non plus quand même.
Non, c'est pas léger, mais
même si ce sont des filles qui peuvent être légères, mais le sujet ne l'est pas.
Mais en fait, ce que j'aimerais faire, c'est comme les comédies à l'italienne où sous fond de trucs sociaux parfois durs, etc. Ça reste un humour qui est un humour prégnant et une esthétique de l'image aussi.
Oui, pas un peu joyeuse quand même, pas sinistre.
Ouais. Enfin, oui, c'est s'amuser avec le mal, enfin le malheur, même pas le malheur, mais avec enfin la vie, avec la vie en général, quoi.
S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on peut. Quelle serait? Est-ce qu'il y a une autre question du? Non. Oui, si.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui est plus important pour vous, raconter, comme la bande dessinée, c'est raconter des histoires et dessiner. Si raconter des histoires est plus important ou dessiner plus important, ou si c'est exactement la même chose.
Eh ben, j'ai l'impression que je tire. Enfin, la jouissance intellectuelle, elle est clairement plus dans la. Enfin, le vrai travail, il est dans l'écriture de l'histoire. C'est ça qui fait qu'on a l'impression d'avoir vraiment des problèmes à résoudre et qu'on est content de le faire. Enfin, comment dirais-je? Mais à la fois, quand la page est blanche et qu'on se dit « Oula, j'ai tout ça à faire, là, c'est ça, et il va falloir que ça soit rempli », et ensuite de voir une page ancrée, c'est aussi une satisfaction. Ce que je sais, c'est que moi, l'écriture, que d'un côté, je suis pas bonne, le dessin, que de l'autre, je suis pas un prodige non plus, et je pense que c'est moi, j'ai vraiment, j'aurais jamais pensé que je serais capable d'écrire une histoire qui tienne sur 90 pages ou là 200 pages. À la base, moi, j'écrivais pas du tout chez moi des romans, ou je tenais même pas de journal intime. Et c'est vraiment l'association des deux qui m'a permis de dépasser les obstacles, en fait. Les deux associés, c'est plus facile. C'est plus facile, en fait. Donc, je pense que je serais une piètre romancière, et je suis vraiment pas un génie du dessin, quoi. C'est vachement de travail de gommer, de reprendre, et je sais ce que je veux. Ça, je pense que c'est mon. Je sais quand l'image me plaît, mais après je mets du temps à la faire, quoi.
Une question un peu naïve, mais quelle est l'image que vous avez en tête quand vous dessinez? Est-ce que vous vous approchez de cette image? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'image particulière, d'image mentale qui préexiste à
ce qui... Si, bah, enfin, je ne sais pas si c'est ça. Par exemple, on fait les expressions vraiment des visages qu'on dessine, ou si les inclinaisons. Et, enfin, si, je ressens pas dans...
C'est physique, donc.
Oui, enfin, c'est pas du théâtre, c'est pas Mouchkine non plus, mais c'est... Enfin, oui, j'ai un petit peu, ouais. Et, par exemple, pour les voix off, dans ma bande dessinée, il y a des voix off, et c'est assez difficile de les placer, de les manier. Ça, je me les cite, parce que je veux que ça... je veux presque qu'elle rime, je veux qu'elle soit plaisante à énoncer dans ma tête. Donc, je les lis, et c'est vrai que je me suis aperçue que j'ai pas mal fait de rimes dans mes voix off. Je veux que ça swing. Comme le titre, par exemple. C'est vrai que je prends des... Coney Island Baby, waouh. Enfin, je trouve que c'est pas de moi, hein. c'est de Lou Reed, mais ça, voilà, c'est important que ça claque.
Quel serait le mot de la fin? Quel serait-il? Ça va, ça, c'était
oui, oui,
pas
ça
trop désagréable.
Non. J'espère que c'était pas trop long pour les gens.
Ils sont restés. Hein.
Ouais. Le mot de la fin.
Le goût de la... Oui, alors...
Une devise ou un truc comme ça. je sais pas, un mot de la fin.
À suivre. C'est souvent ce qu'on dit en général, non?
Ouais, à suivre.
Bon, merci.
De rien.
Et merci pour la traduction.
Merci. Ah, c'est bien le bordel.
Alors là, oui, juste. La prochaine rencontre aura lieu le 2 février, normalement, avec un auteur japonais. Voilà, ici.